Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
Jean Lebrun avec le témoin de ce vendredi, Jean-Pierre Le Goff, La fin du village, une histoire française.
Quand on a voulu s'installer en France, on vivait en Californie, et on a souhaité changer de vie à un moment donné. On a eu l'impression de s'offrir un grand luxe quoi, avec ce village. Et on l'a vu comme un village, c'était ce qu'on recherchait, c'était le rêve. Il y a eu le rêve américain, si on peut l'appeler. Après, c'était le rêve du village. Moi, je rêvais plus que d'aller acheter du pain à la boulangerie, que ce soit tout proche. Et quand on est arrivé, il y avait tout.
Le village, c'est Cadenet dans le Vaucluse, un rêve de village en effet. On en voit des images muettes, celles de son école, dans Bienvenue chez les Ch'tis. C'est là que Cadmerade était censé être en poste avant de se voir affecté plus au nord. Chacun se représente Cadenet comme une communauté, ouvertement provençale, sourdement hostile à l'État et, comment dire, de style français, esthétiquement française. Mais le village est devenu, en 30 ans, une agglomération deux fois plus importante qu'elle ne l'était. Une manière de banlieue campagnarde entre Aix et Avignon. Le compas est ouvert, l'échelle des revenus va dorénavant du très riche au plus déglingué. Dans ces nouvelles conditions, c'est quoi être de Cadenet? La municipalité elle-même a posé la question. Les citadins qui rejoignent l'endroit sont à la recherche d'un temps où on pouvait perdre son temps. Mais justement, ils arrivent avec leur agenda. Les héritiers du vieux Cadenet le pleurent, évidemment, à chaudes larmes. En même temps, ils souhaitent que leur terrain devienne constructible. Une fois qu'ils les auront vendus, ils aimeraient que les nouveaux arrivants ne s'y établissent pas, ou du moins qu'ils ne mettent pas des panneaux partout, propriété privée, afin qu'on puisse promener comme avant. Avant qui? Avant quoi? De la Provence de carte postale, on est passé à une Provence en morceaux, il est vrai, dans une France elle-même de plus en plus morcelée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Pierre Le Goff, bonjour.
Bonjour.
Vous aurez noté que j'ai cité le nom de ce livre qui vient d'être réédité en format de poche chez Folio, La fin du village, que j'ai mentionné la France morcelée. Il faudrait aussi que je cite La gauche à l'épreuve, enfin qui est devenue dans une nouvelle édition La gauche à l'agonie, etc., etc. Mais on va surtout se centrer sur ce village qui est un excellent microcosme, à vous entendre, de la France et où vous étiez, comment dire, permittant. Vous savez, il y a les intermittents qui viennent rarement, il y a les habitants permanents, puis il y a les permittents.
Oui, oui, je dirais que j'ai eu un privilège, c'est de rencontrer les vieilles familles. C'était dans les années 80, donc ça remonte quand même à loin, qui m'ont fait un peu connaître l'histoire, alors que moi je ne connaissais strictement rien, je ne connaissais pas la Provence, et j'ai fait connaissance, pas simplement d'un paysage, d'un environnement naturel, mais je dirais d'une forme d'humanité qui m'a été assez vite très sympathique. Il faut dire que, de par mes origines, enfin familiales, je suis issu d'un autre milieu populaire, qui n'a rien à voir évidemment avec le Sud, qui est la Normandie. D'ailleurs, j'ai amené ma famille, j'ai fait rencontrer ma famille avec ces anciens provençaux, et ils se sont assez bien entendus. Et ça reflétait toute une forme d'humanité de l'ancienne France, disons-le comme ça.
Je vous propose qu'on essaye de restituer ce qu'est le trajet d'un cadenetien des années 1950, en commençant par son enfance. Dans un documentaire qui a été fait dans ce village par Bertrand Delay, on entend des anciens évoquer leur début, leur premier pas. C'était où?
La plupart des paysans du village habitaient le village. Moi, dans mon quartier de la Plaine, à Cadenet, qui est plein cœur, j'étais entouré de 7 maisons qui étaient des fermes. C'est-à-dire, dans chacune d'elles, il y avait les chevaux, il y avait les charrettes devant, il y avait les poulaillers accrochés au mur des façades et les lapinières au fond. Cette époque, moi, m'a beaucoup marqué. Alors, j'étais très heureux, moi, de vivre en plein cœur du village, au milieu d'une ferme.
Les souvenirs que j'ai du village, c'est quand on jouait sur la place du Tambour d'Arcole, qu'on avait environ 7-8 ans, et qu'il y avait tous ces paysans, tous les villageois qui étaient là le soir et qui parlaient. Voilà. Et il y avait toujours, à mon idée, 150 personnes, été hiver, qui faisaient un grand rond et qui discutaient de leur boulot et de tout.
Rouler tambour, il faut faire la promotion de Cadenet, le Tambour d'Arcole.
Alors le tambour d'Arcole, c'est le fameux tambour au pont d'Arcole qui a battu tambour, et Napoléon évidemment, Bonaparte à l'époque, est passé sur ce pont, et il y a cette fameuse image, et ça fait partie de l'identité du village. Vous parlez du tambour d'Arcole d'ailleurs pendant la guerre, les paysans se sont arrangés pour cacher ce tambour, ils l'ont enterré dans un champ et l'ont remis avec une grande fête à la Libération,
Il n'a pas été fondu.
Il n'a pas été fondu alors qu'il devait être pris par les Allemands.
Si vous évoquez vos souvenirs d'enfance, je vais évoquer les miens. Dans mon village de l'Ouest, il y avait une place avec des vanniers. Et les vanniers, il faut peut-être expliquer qui c'est, à quoi ça sert un vannier, les paniers d'osier.
Les vanniers d'osier, au départ, eh bien, ils tissaient finalement beaucoup de meubles en osier, ou par exemple des, ce qu'on appelait les dames Jeanne, vous savez, ces choses en verre qui étaient entourées d'osier pour pas qu'elles se fracturent d'une certaine façon. Et c'était une identité ancienne du village qui était liée à cette activité artisanale, qui est loin d'ailleurs, c'était des ouvriers, mais ce ne sont pas les ouvriers d'industrie. C'est vraiment le travail à domicile plus des ateliers. Et il y avait tout un monde autour de la vannerie, c'est-à-dire ce village était organisé autour de la vannerie et de la paysannerie. C'était vraiment les deux aspects de son identité qui aujourd'hui, évidemment, ont largement disparu.
L'enfant que j'étais, moi, aimait bien aller sur la place des vanniers parce qu'on entendait plein d'histoires, mais certaines, c'était à faire rougir les puceaux.
Oui, alors, le problème, c'est ce que j'appelais la sociabilité villageoise par la conversation. À l'époque, évidemment, nous n'avions pas les nouveaux moyens de communication qui existaient. Et l'échange de la parole créait un lien. Parce que tout le monde connaissait tout le monde et tout le monde savait quelque chose un peu sur tout le monde, d'une certaine façon. Alors, il y a deux aspects. Il y avait les aspects commérages qui pouvaient être quand même assez terribles. Je cite d'ailleurs beaucoup de gens dans mon livre où ils disent il suffisait d'être vu avec une fille du village pour être immédiatement fiancé, d'une certaine façon. Mais il y avait ce lien d'échange de la parole qui pouvait aussi se passer sur le marché. Il y avait ce fameux marché aux cerises et aux asperges qui était plus qu'un échange de biens marchands, qui était vraiment l'échange de la parole où, si vous vouliez savoir ce qui se passait, bien fallait aller là, et avec d'ailleurs des joutes oratoires entre habitants, que je raconte un peu aussi dans mon livre.
De l'enfance, on passe à la jeunesse. Une sorte de suspension du jugement moral de la communauté sur le comportement des jeunes, dites-vous, Jean-Pierre Le Goff. Voici la voix d'Édouard Jacquem, que vous citez souvent, qu'on appelait Soleil.
Soleil, oui.
Parce qu'il était né à Rayon de Soleil.
Oui, c'est ce qu'il disait, qui était un peu le poète local, comme il y en avait d'ailleurs à cette époque.
Le grand conteur de Cadenet, au micro de Roger Pillaudin sur France Culture en 1970.
Il y avait une remise, cette remise n'était pas crépie, cette remise était brute, les pierres étaient apparentes, et pour en faire la beauté, les gens faisaient la lessive avec de la cendre, qui fournissait la potasse pour nettoyer le linge. Alors, des draps immaculés étaient accrochés les uns après les autres, et ça faisait une tapisserie, quelque chose de superbe. Et tout le monde prêtait leurs plus beaux draps. C'était réellement une beauté. Nous allions à l'eau marin à pied, avec les jeunes filles. C'était charmant tout plein. Le quatrième jour, ceux qui étaient allés justement à la fête, eh bien, on donnait une pipe. Pour avoir droit à la pipe, il fallait y être allé tous les soirs, et parce que toutes les nuits. Et alors, on montait sur une échelle, on vous bourrait la pipe, on l'allumait, et puis vous faisiez un discours. Alors, quand vous avez fait un discours, eh bien, vous changez la pipe, vous en donnez une plus importante, tout ça, selon le discours que vous faisiez. Alors, celui qui avait bien ressenti, celui qui s'était bien amusé, qui pouvait faire développer justement ce qu'il avait vu, eh bien, tout le monde applaudissait, tout ça. Alors là, les jeunes filles vous embrassaient, les mémères aussi, vous faisaient une caresse. Ma foi, c'était une manifestation qui était très agréable.
C'est sûr que c'était le roi soleil de la conversation, Édouard Jacquem. Alors, il était plombier zingueur, quincailler, très important les quincailleries dans la description de votre village, et communiste.
Oui. Cadenet était un village rouge bien avant la guerre, puisque c'est un village de vanniers. La CGT dominait très largement. Et je dirais que c'est un communiste, je m'en suis aperçu en allant interroger les derniers communistes. Hein. C'était au départ un communiste que j'appelle de village, c'est-à-dire se juxtaposer de façon assez, étrange un discours communiste très dur, puisque dans les années 50 et 60, on compare, c'était vraiment les discussions dans les bistrots entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui sait qu'avait les plus gros avions, etc. Il y avait des débats n'en plus finir, mais en même temps qui était, je dirais, assis sur une sociabilité villageoise qui ne datait pas du communisme, qui remonte à très loin. Et c'est ce mélange étrange qui faisait que les communistes étaient présents. Alors, il y en avait qui n'étaient pas communistes, ça discutait beaucoup, mais ils faisaient partie intégrante de l'identité villageoise, d'une certaine façon.
Et là, vous introduisez le mot modération dans les conversations, dans les discussions, qui peuvent être très houleuses, on peut se prendre par le revers de la veste. Il y a toujours une limite et une modération.
Oui, je pense que c'est un peu le problème du Vaucluse. C'était une terre radicale, d'une certaine façon. Quand vous entendez un certain nombre de personnages, vous avez l'impression qu'ils se mettent en colère, ils deviennent tout rouges, etc. Donc au début, vous êtes très impressionné. Bon, quand vous commencez à vous y habituer, vous pouvez répondre. Moi, bon, mais c'est vrai que pour quelqu'un de l'extérieur, c'est très impressionnant.
Là, on parlait, jusqu'à cet instant précis, à l'imparfait. Le village va évoluer, disons, à partir des années 70-80. Rideau, donc, sur l'ancien village. Beaucoup de boutiques, d'ailleurs, vont voir le rideau se fermer. Cette chanson, c'est vous qui nous l'avez recommandée, Jean-Pierre Le Goff, et date de 1981. Ce n'est pas un hasard, Francis Cabrel.
Allumez les postes de télévision. Verrouillez les portes des conversations. Oubliez les dames et les jeux de cartes. Endormis les fermes quand les jeunes partent. Brisez les lumières des ruelles en fête. Refroidis le vin brûlant les assiettes. Arrêtez les valses des derniers jupons. Les fausses notes des accordéons. C'est un amour perdu sous les étoiles, avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales. Et sur le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Regardez-moi ça. Eh ben descendez, venez voir.
On voit très bien d'ici.
Ma chérie, regarde le paysage qui sera le nôtre, jusqu'au jour de notre mort.
Quel dommage. Les arbres sont plus en fleurs.
On plantera des tomates, des courgettes, des concombres.
Maman, tu vas voir. Derrière, la vue est superbe.
Bonjour, messieurs, dames. Alors, on a quitté la capitale. Moi, je suis de Bois-Colombes. Je m'appelle Fouchard. On est voisins. Rassurez-vous, je vous cacherai pas le panorama. Je mettrai un joli grillage.
Cabrel, 81, le film de Jean-Charles Takela, qui se passe dans le Vaucluse, dans l'Uberon précisément, 1977. La fin du village, raconte Jean-Pierre Le Goff dans un livre qui vient d'être réédité en format de poche sous folio. Elle commence avec tous ces nouveaux arrivants qui viennent rejoindre un village de rêve.
Oui, qui arrive avec une certaine idée du village tel qu'il a pu exister, je dirais globalement un peu sous la Troisième République. Parce que Cannet, de l'extérieur, quand vous vous promenez dans Cannet, vous avez cette église avec sur le fronton égalité, liberté, égalité, fraternité, qui date de 1848. Vous avez la place du Tambour d'Arcole, vous avez la maison des anciens. Donc, vous avez l'impression de revivre dans le passé. En réalité, je dirais pas que c'est un décor, puisque c'est là, mais quand vous imprégnez un peu du milieu, vous voyez que derrière, ça n'a plus grand-chose à voir avec cette collectivité villageoise.
Alors, il y a eu les hippies, comme on disait dans le Luberon, il y a eu quelques cathos de gauche aussi.
Oui, enfin, qui étaient un peu hippies, des cathos de gauche qui venaient, je crois, d'Aix-en-Provence, des scouts, des gens qui partaient à la campagne pour fuir un peu la ville. Ça, c'était l'époque, le premier moment, le tout premier moment après 1968.
Et alors, un chef scout d'origine va jouer un rôle important dans la transformation du village.
Ils se prénomment Éric, Thierry, Christian, Carole, Patrick, Claire ou Bruno. Ils ont 20 ans et habitent Cadenet, entre Aix et Avignon, sur les bords de la Durance. Une exposition qui s'ouvre aujourd'hui et jusqu'au 31 août les réunit dans leurs passions, leurs espoirs, leurs doutes et leurs difficultés. À travers ces photos et diverses manifestations, un village provençal se penche sur ses 20 ans, présent, passé et à venir.
Très vite, j'ai eu envie pendant une année, et j'avais trouvé quelques petits financements auprès du ministère de la Culture, pour photographier une année de la vie du village. Hein. Donc, les écoles, la vie des champs, les commerces, etc., etc., au fil des saisons. Et là, on faisait très fortement participer la population, puisqu'on prêtait les appareils photo. À la fois, les gens étaient très contents, parce qu'ils se voyaient en photo, ils voyaient leur village valorisé, mais en même temps, c'était « qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Qu'est-ce qu'il cherche ?» Hein, donc quand en plus je me suis présenté aux élections avec l'équipe, il doit avoir les dents qui rayent le sol, quoi. Hein. Bon, j'avais évidemment des appareils photo pas mal, et j'entendais dire, justement, devant le bar des boules, combien de fois je suis passé en disant « Ah, celui-là alors, c'est encore la mairie qui lui paye l'appareil ».
Le bar des boules, c'est le QG de Jean-Pierre Le Goff, ici présent à l'époque, 1980. Cette exposition de photos, il a un talent de fédérateur, le chef scout, on a entendu les prénoms de tous ses camarades, et il va jouer un rôle important dans la constitution d'une nouvelle municipalité avec un autre de vos amis, l'ancien principal du collège.
Le pari de ce maire, à l'époque, c'est de dire, on va éviter les excès. On va essayer de maintenir un équilibre, je dirais, entre l'ancien et le nouveau. Je pense que cet équilibre, comme dans tous les cas, n'a pas été maintenu. On a basculé vers tout autre chose que personne ne paraissait véritablement à l'époque en mesure de maîtriser.
Mais l'histoire de Cadenet, expliquez-vous, c'est un peu l'histoire de la France et vous faites un parallèle entre les efforts de cette municipalité qui s'installe dans les années 80 et les mandats de François Mitterrand. D'ailleurs, François Mitterrand, dans sa campagne de 81, se représentait dans son affiche principale avec derrière lui un village. Et le village va connaître, comme sous François Mitterrand, beaucoup de grands travaux et pas mal de fêtes.
Oui, alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de travaux d'infrastructures qui avaient d'ailleurs été commencés par l'ancien maire. Hein, il a repris les choses, mais qui vont transformer la physionomie du village avec la question du développement de lotissements nouveaux. La question des lotissements, c'est quelque chose qui s'est développé partout, si vous voulez. Hein. Et puis aussi des infrastructures, y compris sportives, adaptées aux nouvelles couches. Ça avait commencé avant avec le tennis, des salles de sport, et puis le foyer qui va se développer. Donc, on va avoir à terme une reconfiguration totale à la fois de la population et du village lui-même, avec une fracture quand même entre ce que j'ai appelé beaucoup de gens nouveaux, pas tous, mais qui sont très centrés, disons, sur l'animation festive et culturelle d'un nouveau genre, sauf que une partie du village ne suit pas. Ce n'est pas pour nous. Ces anciens, donc il y a une fracture qui est à la fois sociale, mais qui est aussi culturelle. Et de façon un peu polémique, ce qui m'a valu évidemment beaucoup de critiques, ce que j'ai appelé les cultureux, c'est-à-dire une forme de culture qui n'est pas forcément centrée sur l'œuvre, qui est centrée sur l'expression de la subjectivité en guise d'œuvre, si vous voulez, qui s'expose. Alors là, c'est assez typique comme contraste. Vous avez l'ancienne laiterie, qui a été transformé en centre culturel avec des expositions. Souvent, il y a du monde, d'ailleurs. Tous les nouveaux y viennent. Et puis, à 50 mètres à peine, vous avez le bar des boules. Et là, vous avez deux mondes qui se regardent, je dirais pas en chien de faïence, mais presque.
Je veux pas être cultureux, mais je pourrais introduire un mot. Logomachie, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés par les uns et par les autres, mais ils n'ont pas le même sens. Alors quand le parc naturel régional, parce que le village appartient aussi au parc naturel régional du Luberon, emploie le mot super-citoyen ou le mot éco-citoyen, le mot citoyen n'est pas entendu de la même manière au bar des boules.
Ah ben non, mais citoyen, c'est comment nous, on nous prend en compte, si vous voulez. En gros, ils ont l'impression, mais je dirais que maintenant, ils sont minoritaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'est transformé. Ce sont les nouveaux habitants. Les nouveaux habitants qui ont eu des enfants, ce sont maintenant, et leur village pour ces enfants, c'est les Cadenétiens. Donc, je parle des anciens casquettes, ils ont disparu, faut le savoir. Donc, on a une reconfiguration, et avec des aspects, je ne vais pas être trop négatif non plus. Il y a ce fameux marché paysan du samedi, ou avec des agriculteurs un peu bio, etc., face au bar des boules, c'est là où on trouve encore un certain mélange. Mais autrement, chacun vit, je dirais, dans l'entre-soi de sa catégorie sociale, d'une certaine façon.
Dernier extrait du documentaire de Bertrand Delay, tiré de votre livre, La fin du village.
Et petit à petit, on a vu des panneaux privés. Je sais pas que c'est dur, mais je vois pas pourquoi on promène chez moi, ou on promène chez le voisin qui est paysan comme moi, ou chez l'autre qui est pas paysan, et chez eux on peut pas. Ben écoute, lui, il a créé une cave, il a mené des vignes qui certainement aujourd'hui seraient plus menées. Qu'est-ce que tu veux le reprocher, quoi?
Il faut avoir en tête que les nouveaux arrivants dans une commune ne rapportent rien. C'est-à-dire que c'est une erreur de penser que par les impôts locaux qu'ils vont payer dans l'agglomération, dans la commune, on va s'enrichir. C'est faux, parce que leur arrivée entraîne des dépenses qui concernent l'extension des réseaux, eau potable, assainissement, électricité, etc. Et surtout, ce à quoi il faut faire très attention, si cette nouvelle population entraîne des besoins supplémentaires en matière d'équipement, une école primaire, une crèche, si ces établissements ne sont pas de nature à pouvoir absorber la population nouvelle qui arrive, alors c'est assez catastrophique pour la commune, parce qu'il faut faire une deuxième école maternelle, etc., etc.
Donc attention au risque d'embrouille dans le village, sauf que c'est plus un village, Jean-Pierre Le Goff. On en est maintenant à 4200 habitants, c'est plus une banlieue campagnarde, plus que ça.
Oui, je pense. On n'est pas loin de 5000, oui. Mais on ne veut pas franchir le cap des 5000, parce que ça suppose un certain nombre de contraintes pour la mairie. Enfin bon. Oui, non, ça n'a plus rien à voir. Alors il faut savoir ce qu'on entend par village, si vous voulez. La notion de village, parce qu'on m'a dit, vous parlez de la fin du village, mais le village, il est toujours là. Sauf que c'est la fin de la collectivité villageoise, au sens ancien du terme. Et cette collectivité villageoise était caractérisée par un certain nombre de choses, dont, à l'intérieur d'un même espace géographique, vous aviez lieu d'habitation, lieu de travail et le loisir. Or, précisément, c'est ça qui a totalement éclaté. Vous aviez aussi des rapports de proximité et de sociabilité liés à une longue tradition de natifs. Eh bien, là aussi, vous avez des catégories sociales qui coexistent aujourd'hui à l'intérieur d'un même espace géographique, sans forcément avoir les mêmes traditions, la même histoire. Et je dirais que ça se passe, pour l'instant, plutôt bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dehors, et on voit très bien qu'il y a des contradictions qui se traduisent notamment lors des élections, puisque c'est une municipalité, un village qui est resté toujours de gauche en ce qui concerne, avec une majorité courte quand même, concernant la municipalité, mais quand vous prenez les autres élections, évidemment, vous avez le Front National et aussi la droite. Quoique Cannet, par rapport aux autres villages et aux autres communes du Vaucluse, par rapport au score du Front National, est plutôt légèrement en dessous.
Le compas social s'est ouvert. Alors, il y a des très riches. Vous parlez beaucoup de l'Américain qui a beaucoup d'empathie d'ailleurs pour le village, donne des fêtes ouvertes, vous décrivez une de ces fêtes. Et puis, il y a les déglingués. Alors, commençons par les plus riches. La fête de l'Américain.
Oui, mais alors, si vous voulez, c'est pas la catégorie des riches. Je sais qu'il y a toujours cette tendance à dire à ceux-là, à ceux-là. Il y a d'abord une catégorie de très riches qu'on voit jamais. Hein, je ne dirais pas lesquels, qui ont racheté des propriétaires qu'on voit jamais. Ils viennent de temps en temps, mais on les voit pas dans le village. Celui que j'ai appelé l'Américain, c'est quelque chose de différent, parce qu'il a su d'emblée se lier avec les anciens. Et comme on dit, c'est quelqu'un qui n'est pas fier. Donc ce n'est pas simplement la catégorie sociale qui est en cause, c'est un parcours de vie. C'est un parcours de vie où vous êtes capable de parler à d'autres gens que vous-même, que votre catégorie. Et l'Américain, de ce point de vue-là, redonne une certaine vie, je veux dire, économique. Et donc ça fait revivre un peu les choses. Je crois pas qu'on... Il faut pas condamner en soi, si vous voulez, le fait qu'il soit riche.
Mais alors, si j'utilise le mot de pauvre, il vous est arrivé de désigner des nouveaux arrivants comme étant des pauvres. Et là, on vous a repris à Cadenet. C'est pas des pauvres.
Bah,
Au sens que le mot avait autrefois.
Parce qu'il faut voir qu'Cadenet, il y avait des catégories pauvres qui étaient les vanniers, par exemple. D'ailleurs, qui gagnaient 4 sous, qui dépensaient ça aussi dans les nombreux cafés qui existaient, avec des phénomènes d'insalubrité des logements. Faut jamais oublier ça quand on parle du passé, sinon c'est totalement angélique. Mais cette pauvreté ne signifiait pas ce que j'ai appelé la déglingue. Pourquoi ? Parce que vous gagniez 4 sous, mais vous étiez fier de gagner votre vie, et vous, d'une certaine façon, vous ne dépendiez de personne. Bien sûr, vous dépendiez des autres, mais vous aviez cette fierté d'appartenir aussi à un collectif, dans le travail, avec ses fêtes, ses traditions. Donc il n'y avait pas le sentiment, comme il existe aujourd'hui, d'être une victime. Et je crois que d'ailleurs le type de travail, la fierté par exemple des vanniers quand ils faisaient un bel objet, ça c'est quelque chose de ce que les managers modernes appelleraient aujourd'hui d'un mot, qui la motivation, alors que ça n'a rien à voir avec simplement une dimension psychologique. Hein. Aujourd'hui on voit tout par la psychologie. Là c'était le fait de faire des belles choses. Alors le travail était dur, dans des conditions à la chandelle, y compris dans le travail familial pour l'osier, mais on pouvait chanter, on avait des ouvriers qui chantaient, vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est la plainte perpétuelle du harcèlement moral, si j'ose dire. Et là, c'est vraiment deux mondes différents.
Allez, je pose une dernière question. J'espère qu'elle ne va pas vous fâcher avec les cadenettiens, parce que vous retournez toujours à Cadenet. Votre livre a été reçu de façon contrastée, oui, mais souvent aimable. Alors, mettons les pieds dans le plat. Les nouveaux arrivants, les cultureux, par exemple, comme vous dites, ils entendent le mot arabe prononcé chez vos copains des bars de Cadenet. Qu'est-ce que ça veut dire le mot arabe tel qu'il était prononcé en 1950, en 1970 et aujourd'hui ?
Bien, aujourd'hui, il y a le sentiment, au moins pour les anciens, mais une bonne partie du village, d'un sentiment de provocation. Pour une chose qui est très simple, qui a évolué, c'est-à-dire qu'auparavant, c'est-à-dire 70, disons les années 70, début 80, il y avait des jeunes filles qui venaient de ces familles maghrébines, qui portaient des jeans, qui jouaient avec, y compris les enfants des anciens. Et bon, et on a vu apparaître, sans qu'on le comprenne vraiment pourquoi, tout d'un coup des voiles. Et ça, c'est quelque chose qui a choqué une partie de la population. L'autre partie de la population fait bien attention et est très vigilante sur la question de ce qu'on appelle le racisme, si vous voulez. Hein. Là aussi, il y a une fracture dans le rapport à ces catégories sociales. Et aujourd'hui, on a un phénomène, je dirais un peu nouveau, moi qui suis passé à Cadenet depuis 30 ans, c'est le phénomène pas simplement des voiles, mais des robes noires de la tête aux pieds. Hein. C'est pas forcément la burqa, mais c'est quand même un grand vêtement. Et vous me direz, ils sont très peu nombreuses en fait, mais il suffit d'en voir trois, si vous voulez, regroupés, parlant dans leur téléphone, au milieu de la ruelle, pour qu'immédiatement ça jase. Vous avez l'impression, ce n'est plus notre village, ce n'est plus ça. Quand vous voyez on a souvent fait la remarque d'ailleurs, quand vous regardez la télévision et que vous voyez par exemple Boko Haram, pour prendre un exemple, avec ces filles enlevées qui sont habillées d'une certaine façon. Et vous ne pouvez pas vous empêcher, beaucoup d'habitants ne peuvent pas s'empêcher de dire, mais regardez, qu'est-ce qu'on voit ? C'est la même chose que celles qui habitent dans un autre pays avec les islamistes, etc. Immédiatement, le rapport est fait, que ça soit juste ou pas, parce que quand vous connaissez évidemment les personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je crois qu'il faut comprendre. Comprendre ne veut pas dire justifier, mais il faut comprendre et ne pas reléguer ça à une pure et simple, comme c'est fait d'ailleurs par une bonne partie de la population, un pur et simple racisme, si vous voulez. Hein.
Si on ne voyait pas tout ça à la télévision, on entend ça dans tous les villages de France, si on ne voyait pas tout ça à la télévision, on se comporterait différemment.
Effectivement, la télévision donne une forme de modèle. On dit, comment veux-tu qu'on ait le moral avec tout ce qu'on écoute et tout ce qu'on entend ? Il y a une espèce de vision extrêmement noire de la réalité, qui correspond d'ailleurs en partie aussi à la réalité. Mais il y a une forme de valorisation médiatique de catégories sociales qui peut avoir des effets extrêmement pervers. Et les journalistes le font sans le faire exprès, d'une certaine façon, mais ils le font. Et ça donne des effets que moi j'observe à chaque fois. Et je peux vous dire que l'écart est en train de se creuser considérablement.
Et on est revenu ainsi, insensiblement, au thème de certains de vos livres, Malaise dans la démocratie, La gauche à l'épreuve, voire à l'agonie. Et nous recommandions la réédition en format folio chez Gallimard, de La fin du village, votre livre, Jean-Pierre Le Goff, daté de 2012. Et Dieu sait si le village de Cadenet, devenu ville, a changé depuis 2012. L'émission a été préparée par Franck Olivard, avec à la technique Gilles Gaillard, la réalisation Valérie Aestaraille.
Merci Jean Lebrun, on vous retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle semaine de La Marche de l'Histoire.